aujourd'hui. Quand vous regardez, vous aurez une feuille, hein, c'est qui ont les feuilles, ils vont vous photocopier ça, et puis vous aurez des grandes feuilles avec tous les rois, les tribus, les prophètes, etc. Autrement, c'est un petit peu difficile. Moi, je sais, comme ça, tous en tête, mais bon, c'est un peu difficile pour beaucoup de savoir où ce que c'est, qui c'est, où ça va. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 10 tribus au nord qui sont séparées? Pourquoi est-ce qu'il y en a 2 au sud? Ben, tout simplement parce que Salomon était tellement glorieux, a tellement fait de frasques, tellement de frais avec toutes ces femmes, avec tous ces temples et cette divinité, que tout ça, il a bien fallu le payer. Il faisait énormément d'impôts. Et quand son fils a eu le pouvoir, après la mort de Salomon, son fils Roboam, ben il augmente encore les impôts. Et donc, c'est un homme du peuple, Jéroboam, qui a provoqué la révolte avec la permission de Dieu. Et 10 tribus se sont révoltées et ont refusé de payer les impôts et se sont séparées. Et donc, la permission de Dieu, oui, parce qu'on voit dans les livres des rois que Dieu a envoyé un prophète à Jija de Silo pour annoncer ça, même à Jéroboam, qui serait roi des 10 tribus du Nord, et qu'il y aurait une séparation, un jugement de Dieu sur Israël, dû au péché de Salomon. Les images qui sont utilisées par Osée pour critiquer la situation des 10 tribus du Nord, nous sommes aux environs de 730 avant Jésus. En 722, la Syrie, c'est-à-dire Ninive, la Syrie de cette époque-là, c'est la Syrie et l'Irak d'aujourd'hui, va envahir et détruire Samarie et déporter toutes les populations du nord d'Israël. Sans retour, hein? Un ticket aller, pas de ticket retour. Et ils vont amener des gens d'autres régions à la... Okay? Donc, c'est quelque chose qui se pratique encore dans certains pays, hein? Plus qu'on ne pense. Hein? N'est pas là-dessus. Hein. Si elle a envie de déplacer 2-3 millions de personnes d'un coin pour les taper à l'autre bout, elle le fait. Hein. Pour le moment, elle a 30 millions de gens des campagnes forcés d'aller en ville tous les ans. Tous les ans, 30 millions en ville. Donc ce n'est pas neuf sous le soleil, cette méthode. Pourquoi ? Ben, pour tenir mieux les gens, pour tenir la population, en les déracinant, brisant toutes leurs traditions, leurs filiations, les liens affectifs et tout ça. Eh bien, c'est un petit peu la compote dans la tête, hein, et puis on peut faire ce qu'on veut. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est parce que, simplement, Dieu l'avait annoncé par tous les prophètes que ça allait arriver. Déjà Moïse, en Deutéronome chapitre 28, annonçait ces jugements-là. Depuis Moïse, 1430 avant Jésus, jusqu'au moment de 722, on peut constater qu'on adore Dieu, on écoute les prophètes, et en même temps, on adore la statue d'Astarté, on fait à la reine du ciel, on fait des gâteaux, etc. Il y a des apparitions de cette reine en blanc, hein, une femme en blanc qui vient du ciel, la déesse Ishtar de Babylone, Mésopotamie. Et il y a d'autres divinités comme les Baals de Tyr et Sidon, en Phénicie, où on sacrifie des enfants vivants. On les attrape par les pieds, on les fracasse contre le rocher, on les brûle. Et donc, c'est quelque chose de cruel, et en plus, il y a de l'occultisme, il y a de l'injustice, il y a énormément de perversion sexuelle, il y a des lieux sur les collines, avec des térébintes, les arbres. Il symbolise encore aujourd'hui sur les tombes, c'est un symbole caché pour certains francs-maçons qui veulent se faire reconnaître des autres dans leur tombe. Et pratiquement, le térébinthe, c'est un endroit où il y avait des femmes consacrées à ces divinités et qui couchaient avec les hommes, etc. C'était la prostitution sacrée, soi-disant pour être en communication avec les esprits des morts et aussi des dieux. Bon, tout ça, ça amène des gros problèmes. Des gros problèmes. Et ce n'est pas que le seul problème qu'il y a dans Osée, dans la période d'Osée. Regardez au chapitre 2, verset 7. C'est comme toujours. Donc voilà ce que le prophète va dire. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçues s'est déshonorée, car elle l'a dit, j'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Dépendance économique, au chapitre 4, verset 14. Chapitre 7, verset 14. Qu'est-ce qu'on voit? C'est aussi, ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du moût, de la farine, et s'éloignent de moi. Donc, c'est d'abord le business, c'est d'abord l'argent, c'est d'abord ce qu'il y a dans le frigo, c'est d'abord ce qu'il y a à la fin du mois sur la table, et une civilisation où ce qui compte, c'est d'en avoir plein de ventre et d'avoir une maison. Hein? C'est la même chose dans Luc au chapitre 17 et 18, quand le Fils de l'homme reviendra, il en sera de même. Donc, faites attention à ces avertissements. Jésus a toujours dit, dans Luc chapitre 12, il a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné par surcroît. Et donc, pourquoi vous tracassez-vous ce que vous mettrez sur votre dos pour la nourriture que vous aurez, etc. C'est-à-dire que dans l'âme, telle que nous sommes construits depuis le péché d'Adam et Ève, nous inversons très volontiers les priorités. C'est l'obsession de ce qu'il y a dans le frigo et sur la table qui compte, l'obsession de ce qu'il y a dans le compte en banque qui compte. Même chez beaucoup de chrétiens. Je n'ai pas d'illusion là-dessus, je ne pense même pas dessus. Puisqu'on regarde les sept églises d'Apocalypse, il y en a juste une qui tient la route sur les sept. Alors, ne jouons pas avec Dieu, pas plus qu'au temps d'oser, ne jouons pas avec Dieu, sachant que Dieu sait tout, voit tout, et il sait ce qu'il pense de nous. On ne peut pas le convaincre du contraire. Notre droiture, notre loyauté à l'égard du Seigneur existe ou elle n'existe pas pour lui. Il faut faire attention à cela. Et le prophète est toujours envoyé dans le peuple pour remettre le point sur le i, pour empêcher les gens de tourner en rond et d'avoir bonne conscience. Donc, l'économique, le matériel, sont un gros point sur lequel tous les croyants s'égarent. La deuxième chose, c'est bien sûr l'idolâtrie, le syncrétisme, c'est le mélange de toutes les croyances. On reçoit ici et souvent à la maison des personnes, c'est, pour le moment, c'est la tendance énergétique. Vous croyez aux énergies, etc. Les sorciers en Afrique, les chamans en Mongolie, chez les hindous, croient aux puissances énergétiques. Hein. On retombe, on est en train de reculer à une vitesse incroyable, et il y a plein de boutiques énergétiques. Hein. Et plein de gens qui n'ont plus de travail aujourd'hui, qui vont faire de l'énergie, qui vont recevoir les gens chez eux, ils vont faire des trucs sur Internet, et voilà. Et si ça prend, ça prend, ça ramène des sous. Alors, quand le mouton se laisse tondre, on peut le tondre. Dans Osée, au chapitre 2, verset 15, je la châtirai, donc cette... femme adultère, qui représente les 10 tribus du Nord, pour les jours, elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants, et m'oubliait, dit l'Éternel. Donc c'est les amants économiques. Notre amant économique, c'est Luxembourg. C'est les amants économiques, mais c'est aussi c'est les amants spirituels. C'est tout ce qui est... de l'occultisme, etc., de la divination, des faux dieux. Alors, il y a évidemment encore d'autres travers que le prophète dénonce. Regardons au chapitre 4, versets 1 et 2. Écoutez la parole éternelle, enfant d'Israël, donc priorité à la parole de Dieu, des prophètes, qui est révélé, qui vient de Dieu, donc c'est, s'il le dit, c'est qu'il n'écoute pas, Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, point de vérité, on aime le mensonge, on aime le simulacre, la dissimulation. La deuxième chose, pas de miséricorde, donc pas de pardon entre les gens, pas de compassion, pas d'amour, et puis pas de connaissance de Dieu. Il n'y a que parjuré, mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, tous ceux qui l'habitent seront languissants, c'est-à-dire, vous voyez, dépression, dépérissement, abattement, ça c'est propre à notre civilisation ici en Europe. C'est pour ça que les vendeurs d'énergie sont les bienvenus, et de médicaments, etc. Et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Donc il y a un abattement même qui tombe sur les animaux. Ben, les bêtes des champs, il n'y en a plus. Parce que toutes les machines et les poisons qu'on a mis, il n'y en a plus. Presque plus. Moi, quand j'étais gosse, il y en avait partout. Et les oiseaux du ciel, ben, il n'y en a presque plus non plus. Même les poissons de la mer disparaîtront. Tiens. C'est bizarre, ça, hein? C'est bizarre. Alors, vous voyez, au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Plus besoin de prêtre, hein? Plus besoin de sacrifice. Ça ne sert à rien, ne venez pas avec vos intercesseurs et vos sacrifices. Je n'en veux pas. C'est ça que Dieu a dit. Alors, c'est quand même fort carré. Mais Jésus était comme ça. Hein. Tous les prophètes ont été des précurseurs. Jésus, lui, il n'a pas été avec le dos de la cuillère. Et c'est vraiment très important. La perversion, l'immoralité, l'injustice, la violence sociale se répandent. Regardons au chapitre 12, verset 8. Chapitre 12, verset 8. Éphraïm, c'est le nom qui est donné, c'est le nom d'une tribu du Nord, mais qui est toujours rebelle, toujours râleuse, vindicative, jamais contente, toujours jalouse. Hein? Eh bien, ça a donné le nom à l'époque d'Osée et de ces prophètes-là du 8e siècle pour toutes les dites tribus du Nord. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses, il aime à tromper. Donc, la magouille. Et Ephraim dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, autosatisfaction sur les biens. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Ah, mon âme, tu peux être contente aujourd'hui, j'ai beaucoup gagné d'argent, je vais refaire des grands greniers, je vais abattre les anciens, etc. Insensé, dit Jésus, aujourd'hui même, on va reprendre ta vie. Rappelez ce texte de Jésus. Ben voilà. Ephraim dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, c'est entièrement le produit de mon travail. Regardez l'orgueil. Mais tous les mandats, ils vont travailler pour tous les esclaves, tous les autres. Ah non! Ça, c'est toujours vrai aussi. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Donc, en plus, on ose dire, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de crime chez moi. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal. C'est une très belle société démocratique. Nous sommes au top de l'évolution politique et sociale. Ma parole, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas monsieur ou le roi des Belges, c'est là, 8e siècle avant Jésus. Ça s'appelle le péché de présomption, les amis. La présomption fait partie un des signes de l'égarement spirituel, tout autant que l'impureté, l'injustice, les parjures, les mensonges. C'est pour ça, les amis, quand quelqu'un vous dit qu'il est chrétien, il vient d'une autre église, ou même d'ici. Et vous prenez le temps de connaître, vous prenez le temps de fréquenter. Vous n'avez qu'à écouter. S'il y a de la présomption, c'est que vous avez déjà de la ruine spirituelle derrière. Avec un beau mot, effacez tout ça. Il y a la présomption. Il y a des gros problèmes. Ou l'impureté. Le chrétien doit avoir réglé les problèmes d'impureté à la croix, les déposer au Seigneur, les problèmes de présomption aussi. Or, il y a des tendances avec des messages à développer la présomption chez les gens. à ne pas trop les contester, parce qu'il faut remplir les rangs et surtout remplir le palier qui est tourné. Et pratiquement, les amis, la présomption est encouragée par les paniers. J'ai donné beaucoup à l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Devant le Seigneur, il n'y a qu'une chose qui compte. C'est la grandeur de Jésus-Christ. C'est son amour. Et c'est notre repentance, notre conversion. Alors, c'est un peu le problème des gens qu'il y a dans ce peuple-là, puisqu'il y a plein de prophètes à cette époque-là. Il n'y en a pas qu'un. Dieu en a envoyé un paquet, hein. Et pas des nique-douilles, hein. Ils y allaient. Ils y allaient. Et alors, dans tous les styles. Alors, refus tout le temps. Et il est en colère, Dieu. Il est en colère. Regardez le chapitre 11. Au verset 8. Mon cœur s'agite au-devant de moi. Toutes mes compassions sont émues. C'est comme un papa, si vous voulez, vis-à-vis d'un enfant qu'il essaye de corriger. Il n'y arrive pas. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Là, je m'arrête. Parce qu'autrement, je liquide tout. Je ne viendrai pas. Je suis le saint au milieu de toi. Dieu est saint. Alors, rappelez-vous dans l'épître de Jacques, ce que dit Jacques à sa première église, il n'y a pas de mal en Dieu. Dieu n'est pas tenté par le mal. S'il y a du mal, même dans une église ou autre part, c'est parce que l'homme écoute son péché et développe ses convoitises. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, les enfants courront de la mer. Donc, le lion, deux images dans la Bible, Satan, ou le lion de Juda, Jésus, à la fin du livre de la Genèse et dans l'Apocalypse. Le Christ qui a vaincu à la croix, Satan, le lion de Juda. Ok ? C'est celui-là, c'est le Christ, qui viendra, qui rugira, et qui prendra autorité pour changer les choses. Donc, il y a bien sûr beaucoup de problèmes à régler dans la société. Au chapitre 4, verset 12, d'Osée, vous avez l'occultisme, hein, la prostitution, le vin, le mou, la farine, donc pour la brioche, hein, le pain, font perdre le sens. C'est pas mal, hein, encore aujourd'hui. Hein. Ici, dans notre région, il y a des réunions, hein, il y a des fiestas tout le temps. Il y a des guindailles, il y a des restaurants partout. Je ne sais pas, notre région ici, elle est championne dans tout ça, comme ça. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Donc, son bois, la statue de bois, car l'esprit de prostitution égare, il se prostitue loin de leur Dieu. Donc, la prière devant les statues, la prière devant des objets, est une forme de prostitution qui amène à un égarement, à ne plus connaître Dieu, ni à vivre dans la sainteté. Ça va ? Et la conséquence de ça, c'est évidemment, ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûlent de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les térébins, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent, vos belles-filles sont adultères. Corruption des mœurs, et regardez, c'est assez bizarre, ça commence beaucoup par les filles et les femmes. Aujourd'hui, depuis l'émancipation il y a 50 ans, il y a une liberté sexuelle épouvantable. Ça va continuer combien de temps, cette liberté, soi-disant ? Et c'est ça qui provoque chez certaines autres cultures une réaction où on met le voile. On veut dire non, il faut arrêter. On met le voile, etc. Ça provoque des réactions. Et ou une autre réaction extrême, ben faisons sauter, faisons leur peur, ils vont quand même croire que Dieu existe, ils vont avoir peur, faisons sauter la baraque, vous voyez, et donc purifions-les par la trouille, par la force. Vous savez qu'un excès amène toujours un autre excès. Donc quand on est en train de parler sur les djihadistes et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas vu l'autre excès et qu'on ne le règle pas. Il faut tout de même, quand même, être un peu raisonnable. Je pense qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir autant de désordre. Quand le bolchevisme est arrivé à la fin du XVIIIe siècle et au début du XXe siècle, etc., qu'il a fait sauter la caisse à des tas de gens, non pas seulement en Russie, mais autre part. Le bolchevisme a fait des attentats partout. Les anarchistes, etc. C'était pourquoi ? Mais tellement il y avait de l'injustice sociale, et que ceux qui avaient l'autorité ne voulaient rien bouger. Dès qu'on rouspétait, on sortait les soldats, on tirait sur la foule. Donc, il y avait un extrême qui amenait l'autre extrême. Quand vous voyez un extrême, dites-vous, le pendule tourne comme ça, hein ? Il fait le levier comme ça, le pendule, ding, dong, hein ? Il va à l'extrême, où est l'autre extrême ? Et vous aurez la raison pourquoi il y a des extrêmes. Donc, les amis, c'est de la part de Dieu, il demande une autre sagesse, une autre connaissance, c'est le désir de sainteté. C'est pas, nous allons faire le juste milieu, hein, que tout le monde soit content. Ça, c'est du politique. Au niveau du spirituel, c'est, soyez saint comme je suis saint. Réglez votre vie sur ma volonté, sur ma vie à moi, Dieu. Ça, c'est pas de la politique, c'est du spirituel. Et c'est pas de la religion au service de la politique. Parce que même l'homme politique doit se soumettre et rechercher la sainteté et confesser son péché. Tandis que dans la religion, on honore les hommes politiques. On leur frotte la manche. Parce qu'on va avoir du soutien, on va avoir de l'argent, on passera devant les caméras et la télévision. Jésus-Christ n'a jamais cherché à passer devant la télévision. Chaque fois qu'il guérissait quelqu'un, il s'en allait. Il disait, ne dites rien. Vous voyez ? D'ailleurs, il a choisi l'époque où il n'y en avait pas. S'il avait voulu passer devant la caméra, il aurait choisi de naître. Quand il y avait les caméras, les télévisions, tout le reste, il a choisi. Donc c'est un choix pertinent de la part de Dieu. Maintenant, puisque Dieu a donné à ces prophètes-là le droit de dénoncer, qu'est-ce qu'il va leur dire ? Il va manifester l'amour, son amour aussi. Hein ? Alors voilà, au chapitre 11, chapitre 11, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Donc, c'est l'image d'Israël qui est libéré à l'époque de Moïse, le fils, donc c'est quelqu'un de très cher. Ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, donc des prophètes. Les prophètes les appelaient. Regardez au chapitre 12, verset 11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. 12, verset 11. Qui explique le verset du chapitre 11, verset 2. Donc, chapitre 11, verset 2. Ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Donc, les prophètes, ils ont sacrifié au Baal, offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Donc, Dieu a toujours porté ce peuple. Et il avait de l'amour. Regardez après, je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché les joues près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. J'ai grandi à la ferme ici, et chez mon grand-père à Arnoncourt, et le cheval, à un moment donné, on tirait ça avec le mot, on le tirait. Pourquoi ? Le temps de midi, on rentrait, il devait se manger, se reposer, boire, et on lui tirait le mort, la barre qu'il y a là. Et pourquoi ? Ben parce qu'il faut qu'il mange, il faut qu'il se repose. Et donc, il ne tire pas tout le temps la charrue ou la charrette. Et pratiquement, c'est la même chose, l'image de retirer le joug. Pratiquement, les liens d'humanité, les cordages d'amour, c'est quoi ? C'est l'idée d'une grande tente, une immense tente. Il y a des piquets et il y a des cordages pour tendre la toile avec des petits piquets pour tirer. Et sous la toile, il y a du vent qui passe, donc il fait très chaud en Orient. On se met à l'abri, on se repose. On se repose pendant la marche. Et puis après, quand on continue, on replie la toile, on prend les piquets, on part. Mais on ne se vautre pas au soleil pour se réveiller à moitié mort ou déshydraté. Et quand on veut dormir, eh bien, c'est la même toile avec les piquets, mais on remet la toile alentour pour fermer, pour que les animaux ne rentrent pas, etc., pour qu'il n'y ait pas de vent, pour pouvoir aussi avoir de l'intimité. Et donc, l'image des cordages d'amour, c'est l'image de Dieu qui veille sur une immense tente sous laquelle tous ses protégés sont. Donc la maison de Dieu, la tente de Dieu, c'est Israël. C'est l'image de ce peuple-là. Et une tente sans cordage, c'est foutu. Ça tombe à terre et ça ne sert à rien. Les cordages d'amour, c'est-à-dire, ils tenaient avec amour pour mettre de l'ombre, pour mettre du repos, pour mettre de la vie. Hein. Et il faut bien se dire que c'est une belle image. Si c'est des cortes à moitié pourries, pont un coup de vent, puis la tôle est partie à 5 km dans le désert. C'est des vraies cordes d'amour, c'est quelque chose qui tient, qui est solide. Et Dieu a une grande prévenance pour son peuple. Une grande fidélité, c'est ça que ça veut dire. Donc, vous avez ici l'image d'un amour très grand, et il invite son peuple, au chapitre 10, verset 12, à semer selon justice. L'image du paysan, qui a un champ, et qui va semer selon la sainteté. C'est-à-dire, si vous vous comportez de manière sainte, vous allez semer chez vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, de la sainteté. Semer selon justice. Si vous aimez la sainteté, vous allez donner un exemple. Si vous aimez la parole de Dieu, vous allez donner de la parole de Dieu à vos enfants. Vous allez perpétuer ma parole et mon œuvre de sainteté à travers le peuple. C'est pas tout que la tente, avec la toile et les cordages d'amour, mais si c'est pourri en dessous, c'est tous des vicieux. C'est que la maison de Dieu, la tente, soit habitée par des gens qui sèment de l'amour, qui sèment la sainteté, qui sèment la vérité. Moissonner selon la miséricorde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir retirer des fruits de ce qu'on a semé, mais il faut faire selon la miséricorde. C'est quoi ? Hezet, hasat, c'est simplement cet amour divin, insondable, qui s'exprime tous les jours, en nous donnant la pluie, le vent, le soleil, etc. La circulation du sang, 8 secondes dans notre corps, le mouvement et l'être, cette miséricorde est là. Et il ne faut jamais oublier que nous sommes sous la miséricorde de Dieu. Il ne faut pas tomber dans la présomption, l'orgueil. C'est à moi tout ça. C'est à moi tout ça. Regardez, c'est moi. Boum, boum, boum. C'est seulement la miséricorde de Dieu que tout cela m'a été donné et peut m'être repris. Peut m'être repris demain, tout à l'heure. Le souffle, hein, le mouvement et l'air. Alors, une famille qui grandit sous la miséricorde de Dieu, qui grandit dans l'amour de la vérité et qui donne ça à ses enfants, il y aura bien sûr des enfants qui vont croire et d'autres pas. Des enfants qui vont vouloir le vivre et d'autres pas. Ceux qui vont le vivre vont voir que c'est pas facile. Il faut toujours avoir un cœur humble et chercher auprès de Dieu cette force spirituelle pour le vivre. Pour ceux qui n'ont pas le courage de le faire, qui ne veulent pas, qui se disent « j'ai reçu une bonne éducation, des bons principes, je remercie mes parents, je ne remercie pas Dieu parce que je n'y crois plus, mais je remercie mes parents, je suis né dans une bonne famille, je vais continuer. » Qu'est-ce qui va se passer ? Mais trois générations après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parfois deux. Zoom, le vent est passé. Yop. Parce qu'il n'y a pas Dieu. Il y a simplement un héritage pour une génération, voire encore la moitié pour la deuxième génération, de quelque chose qui vient de la parole de Dieu et de la sainteté, et qui vient de la bénédiction divine. Et puis après, où est-ce que ça est ? Ben c'est envolé, les amis. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je suis aussi papa avec des enfants. Je suis extrêmement réaliste. J'ai vu beaucoup de familles où le grand-père et la grand-mère avaient une foi profonde, où le papa et la maman en avaient, et je regarde les autres générations. Il ne reste plus que des cailloux. La terre est partie. Avec le vent, l'érosion. Alors, chapitre 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Ah, un champ nouveau! Le champ ancien des mauvais. Parce qu'à cause du péché, il ne reste plus que les cailloux. Oui, je vais chercher une autre terre. Où est donc la bonne terre? Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ah, la bonne terre, c'est le Seigneur Dieu. La bonne terre, c'est le Seigneur. La bonne terre, c'est le Seigneur. Et qu'il répande pour vous la justice, c'est-à-dire, c'est trois choses, mon justice. Un, c'est le pardon de mes péchés, parce que je me reconnais pécheur, Seigneur. Je mériterais de terminer ma vie, là, de mourir. Je ne suis pas meilleur que les autres. De toute façon, si je fais des gosses, c'est des pécheurs aussi. Donc, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Si tu veux bien, Seigneur, me déclarer innocent à cause du sang de Jésus et inscrire mon nom dans le livre de vie, Seigneur. S'il te plaît, je reçois ton pardon de tout mon cœur. Alors, il y a quoi d'autre? Eh bien, simplement que il faut chercher l'Éternel dans ce qu'il est aujourd'hui. Il est là, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Matthieu 18, verset 18 à 20. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux sur la terre, donc je vis selon sa puissance, selon sa présence, pas selon mes caprices, pas selon mon vouloir. Philippiens, chapitre 2, c'est Dieu qui fait en moi le vouloir et le faire, dit Paul. Et répandre pour vous la justice, cette justice, c'est donc la sainteté. Le deuxième point, c'est pas le pardon, c'est la sainteté. Et le troisième sens, c'est l'obéissance dans le mot justice. Qu'il répande pour vous. Donc c'est tout à fait la grâce. Vous voyez que ce prophète avait quand même mis le doigt sur tout en même temps. Hein? Et si vous ne le voulez pas, regardez. Verset 13, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, hein, c'est le contraire du verset 12, hein, semer sans justice, moissonner sans miséricorde, le contraire ici. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, donc vous avez le contraire, vous pouvez analyser deux versets. C'est un parallélisme antinomique. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera donc, conséquence, un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites. Comme fut détruite Charlemagne et Rabel au jour de la guerre, qu'est-ce qui arrive à l'Europe? Avec toutes les guerres qu'il y a eu sur la caisse, l'Europe. Ils n'ont pas encore compris. Pas encore compris, hein? Je signe, je persiste. Pas encore compris. Les amis, Dieu est grand. Le prophète a dit ce qu'il devait dire. Pour les 10 tribus du Nord, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de beau à l'horizon qui arrive? Chapitre 2, verset 16. Parce que ça serait sinistre. Oh, les foutus prophètes, et puis ce pasteur-là, il me dégonfle. Il n'y a plus de morale à cause de lui quand je retourne. Hein? Une sinistre, c'est un apocalyptique, mon père. 2.16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Donc Dieu a la capacité de parler au cœur des hommes. Dieu a la capacité d'attirer la personne. Et Jésus l'a promis, quand je serai élevé, je vous attirerai à moi. Le mot c'est séduction. Donc, dans le désert, il y a un temps de recul, un temps d'écartement, de sobriété. Il n'y a plus besoin de l'inutile, de toutes les bêtises dont on s'entoure. Des projets fumeux qui ne tiendront pas longtemps de toute façon. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, l'Éternel, tu diras... Tu m'appelleras mon mari. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur aime bien les bisous. Le Seigneur aime bien une jolie madame. Vous voyez? Hein? Vous voyez bien comme Dieu, il attend quelque chose de nous? Ah! Dieu attend que son épouse l'aime. C'est tout le cantique des cantiques, le livre des cantiques des cantiques. Ne la réveillez pas. Ne lui dites pas qu'elle doit m'aimer. Ne réveillez pas, attendez que son amour le veuille. Eh oui, quand Jésus dit « Viens, suis-moi », je ne suis pas obligé. Et regardez bien Pierre, à un moment donné, après plusieurs années, Jésus lui demande en Jean chapitre 21, « Pierre, m'aimes-tu ? » Plus que ceci, ben oui, hein, plus que Astarté, hein, plus que l'argent, plus que les poissons, plus que la barque, plus que tout bazar dans sa vie. Plus que le socio-économique, M'aimes-tu plus que ceux-ci? C'est-à-dire, est-ce que tu veux continuer à faire comme les autres ou tu vas vivre comme celle-là qui m'aime dans le désert dont je suis séduit le cœur? Le problème entre Jésus et nous, est-ce que notre cœur est séduit? Et si nous acceptons le désert où il faut être avec lui, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre que lui. Il y a tellement de choses dans ma vie que Jésus, ben, je vais lui donner une petite place. Il sera quand même content. C'est pas un difficile, il aime tout le monde. Si on croit qu'on va se moquer de Dieu comme ça, les amis, c'est un petit Jésus là, dans la crèche là. Hein. Pas grand chose, quoi. Alors, qu'est-ce que on vient de voir? Mon mari, c'est mon mari. C'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. C'est un amour sans retour, sans regret, sans partage avec un troisième ou quatrième. C'est une alliance. C'est un don de soi, réciproque. C'est une union pour la vie, pour toujours. Et oui, donc Dieu ne demande pas qu'on chipote avec lui. Verset 21, chapitre 2, verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Donc la sainteté, et le pardon des péchés, et l'obéissance. La droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnaîtras l'Éternel. Dieu est fidèle, ça c'est pas un problème. Mais par la fidélité qui? Ben, de la mariée. Des tribus d'Israël. Ben, nous, dans le christianisme, je serai ton fiancé par ton obéissance, ta fidélité envers moi. Il ne peut pas y avoir véritablement de lien si un des deux n'aime pas l'autre. L'amour, c'est à deux. Si un qui m'aime à moitié ou un quart, on ne peut pas dire que c'est des fiançailles, ça. C'est du racolage. C'est du bricolage. Ça tiendra ce que ça tiendra, puis ça tombera. Alors, au verset 23, « En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, ils exauceront la terre. » Regardez la promesse, la certitude. Dieu dit, « J'exaucerai les cieux. » C'est-à-dire, dans tous les cieux, la Jérusalem céleste est prête à descendre sur terre. Apocalypse chapitre 21 et 22. Et il n'y aura plus de différence entre le ciel et la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tiens, ça va s'accomplir. Voilà ce que vient de dire Osée. Voilà ce que Jésus a appris à ses disciples. Ce qu'il nous apprend aujourd'hui. Et qui est une promesse. Ce n'est pas seulement une leçon. C'est un décret divin. Ça s'accomplira. Aussi fort que la terre a été créée, ça s'accomplira. Ce que Dieu a décidé se fera. Alors, ça, c'est quelque chose de très important, mes amis. Mais il nous y prépare, nous sommes comme une fiancée. Et dans le système juif, une fiancée, un fiancé, c'était un nom. On était promis l'un à l'autre, comme mariés définitivement, mais on vivait ensemble qu'un an après. Donc c'est l'union spirituelle, c'est l'union du cœur, de la pensée. Tout le travail du cœur et de l'esprit est nécessaire avant la rencontre des corps. Et c'est la même chose. Avant d'être en présence de Jésus, de la rencontre pour le royaume, il faut être préparé en tant que fiancé. Il faut que nos cœurs écoutent ce que Jésus veut nous dire, et il faut que nos cœurs parlent à Jésus. Tu m'appelleras mon mari. Alors, vous avez vu qu'il y avait une bénédiction cosmique, au chapitre 2, verset 20. Hein, une bénédiction cosmique, c'est celle au verset 23. La terre sera bénie. C'est fini de voir les poissons mourir. C'est fini de voir les habitants de la terre languissant. Les oiseaux, les bêtes des champs, chapitre 4, verset 3. Hein? Chapitre 4, verset 3. Les bêtes des champs, les oiseaux du ciel qui disparaissent. Les poissons de la mer qui disparaissent. C'est fini ça. c'est pas le système écologique, c'est pas les grandes réunions à Paris qui vont changer quelque chose. C'est que du mensonge. Ça a coûté des millions, toutes ces réunions-là. On est passé à la TV, on a fait des beaux discours. Que de mensonges. Que de mensonges. Pas pour Dieu. Si Dieu décide quelque chose, il se fera. Ça, c'est pas de l'homme politique. C'est Dieu. Alors, nous avons affaire à un grand Dieu qui veut quelque chose pour nous. Et pour cela, il faut le repentir et la conversion. Que nos hommes, nos femmes d'aujourd'hui se convertissent, se repentent, oui, il est temps. Il est temps. Tu me diras, je suis ton mari. Hein? C'est donc l'union spirituelle avec Dieu qui est la base de la vie. Et je veux dire, je suis passé par une petite route comme la souris. Hein. Alors, la conversion est nécessaire. Il faut retourner à Dieu. Il faut savoir s'abandonner à Dieu. Au chapitre 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Chapitre 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Dieu s'écarte. On ne veut pas de moi. Si la France ne veut pas de Jésus-Christ, ben il y aura tous les autres, hein, tous les démons qui courent sur la terre. Je m'en irai. C'est pas parce qu'on va augmenter le nombre de soldats et de gendarmes qu'on va arriver là. Alors, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, après, je reviens. Mais en attendant, je vais venir ici. Puisqu'ils ne veulent pas, qu'ils savourent le fruit de leur iniquité. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Voilà ce qu'il dit pour les 10 tribus du Nord, voilà ce qu'il dit pour les peuples, aujourd'hui. Beaucoup de peuples chrétiens, hein, soi-disant chrétiens. Alors, c'est clair, la conversion, c'est s'avouer coupable. Un jour, à une réunion, c'était en France, et là, il y a bien quelqu'un, un banquier, qui arrive, et il discutait avec sa femme, il était avec quelqu'un d'autre, etc. Il arrive là, il écoute un certain temps, il ne dit rien, puis tout d'un coup, « Ah oui, je sais bien qu'on est pêcheur !» Je le voyais, c'était un matamor, il faisait, et je le regarde, il est coupable, la bouche coupée, fini. C'est jamais converti, il est coupable, tu aimes ton péché et tu participes. Ne viens pas tout reporter sur le dos d'Adam et Ève. Jamais il ne s'est converti, peut-être qu'il reviendra, il va me retrouver au champ, etc. Il faut être patient, très patient. Quand ils seront en détresse, ils auront recours à moi. Alors, à mon avis, possible que ça arrive. Détresse. Alors, regardons au chapitre 10, verset 12. Les hommes ont beaucoup de toupets, vous savez. Beaucoup de toupets. Je trouve, moi, quand on leur met la vérité, hein, on leur sert la vérité, même gentiment, ou un peu carrément, ça dépend. Ils ont beaucoup de toupets. Vous rencontrez rarement maintenant quelqu'un de humble. Et s'ils ne sont pas entre les deux, ils sont comme ça. Ils trouvent des excuses, ils trouvent des combines pour paraître bien braves, et en fait, c'est pas du tout ça. Alors, au verset 12, c'est il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. On l'a lu tout à l'heure, mais jusqu'à ce qu'il vienne, ça veut dire qu'il vient. Et on vient de lire juste avant qu'il revient dans sa maison. Hein? Vous vous rappelez, chapitre 5, verset 15, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. » Donc Dieu n'est pas étranger au monde. C'est son monde à lui. Nous, on est persuadés, les hommes, que le monde, c'est à nous. Ma maison, c'est à moi. Mon auto, c'est à moi. Rien n'est à moi, tout est à Dieu. Il faut changer ça dans sa tête. Il faut changer ça dans sa tête. Surtout si on est croyant, on croit vraiment en Dieu. Attention de dire « je crois en Dieu » et de fonctionner comme le païen. Tout est à moi. Non, c'est du mensonge ça. C'est de l'iniquité. Alors, il y a bien sûr un besoin de conversion qui est extrêmement profond. Au chapitre 11, verset 8,
je n'agirai pas selon mon ardente colère. Donc Dieu ne veut pas me détruire. Hein? À la fin du verset 9, je ne viendrai pas de ma colère.
Si je me suis converti, si j'ai accepté le Seigneur, si dans ma détresse j'ai recouru à lui, si j'ai commencé à défricher et à semer selon la justice et la miséricorde, Dieu le voit. Si j'ai ce vrai désir de Dieu dans ma vie, il le voit. Et à ce moment-là, il ne va pas faire aller sa colère. Il va achever en moi ce qu'il a commencé. Mais pour celui qui a dit non, il est sous la colère de Dieu. N'oubliez jamais ça. Celui qui dit non dans sa vie, il n'y a pas besoin de rencontrer Dieu comme je rencontre. Je le rencontre tous les jours. Dans tous mes choix moraux, spirituels, je le rencontre. La façon dont je me comporte, je lui tourne le dos, je lui crache dessus, ou je le rencontre. J'en trouve la porte pour le rencontrer. Et c'est lui qui va venir chez moi et qui va manger avec moi. Et je mangerai avec lui. Apocalypse 3, verset 20. Donc vous avez clairement dans vos vies, tous les jours, matin, midi, soir, minuit, 2h du matin, le choix d'être en face de Dieu ou lui tourner le dos. La réalité spirituelle ne tient pas compte de l'horaire du travail ou de je fais la cuisine ou je dors. La réalité spirituelle de toute minute, de toute seconde de ma vie. C'est ça qu'il faut sortir de l'espace et du temps dans la vie spirituelle. Alors, la conversion est nécessaire, les amis, et je pense qu'il est nécessaire d'écouter les prophètes. Il est nécessaire de lire. Hein, chapitre 12, verset 11, j'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, par les prophètes, j'ai parlé et proposé des paraboles. Quand on entend le mot parabole, on pense à Jésus. Et Jésus en a raconté beaucoup des paraboles. Donc, il nous adresse des enseignements. Convertissons-nous, les amis. Chapitre 13, verset 14. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Les amis, ça c'est le bouquet final. Jésus vient sur terre. Il guérit tous les troubles écologiques. Il n'agit pas dans sa colère sur ceux qui l'ont aimé. Il agit dans sa justice pour achever en eux toute la sainteté, toute la justice. Il fait un jugement parce qu'il y a ceux qui n'en ont pas voulu de lui. Il fait un jugement. Mais il y a aussi quelque chose. Je leur rachèterai la puissance du séjour des morts. Il n'y a plus d'autorité à Satan. Il n'y a plus d'autorité au péché d'Adam et Ève. Fini. Une histoire humaine. Un royaume messianique sans puissance de péché. Sans puissance de péché. Et je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Regardons dans 1 Corinthiens 15, verset 51 à 57. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 57. Nous finirons par là, puisque de toute manière, nous ne sommes plus à l'époque d'Osée, nous sommes à l'époque de Jésus, de son salut. Gratuit. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère, donc une vérité divine, qui est révélée de par Dieu aux croyants, progressivement, selon la mesure de sa foi. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés quand Jésus reviendra. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Métamorphose, complètement changé. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors corps, c'est pas body, hein, comme en anglais, c'est pas soma, c'est sarx, c'est notre réalité humaine. C'est les os, la chair, l'esprit, l'âme, la psyché, c'est la psychologie, etc. C'est tout. Et c'est ça. que cette réalité humaine corruptible revêt de l'incorruptibilité, que ce corps, cette réalité mortelle, à cause du péché d'Adam, revêt de l'immortalité. Lorsque ce corps, cette réalité humaine que j'ai reçue de Dieu, corruptible, aura corruptible à cause du péché, pas à cause de Dieu, aura revêtu de l'incorruptibilité à cause de Jésus, résisté, que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui était écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Victoire de qui? De Jésus, bien sûr. Qui nous l'offre? On ne va pas l'acheter au magasin. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton fouet? Aiguillon, c'était le fouet pour tuer les gens. Le fouet de la mort, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Grâce au rendu à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, ces versets de Osée, chapitre 13, sont là. Ils incluent la vie spirituelle éternelle et la vie physique renouvelée, la vie de notre corps abîmé, renouvelé et glorieux. C'est extrêmement important. Prenons Hébreux, chapitre 2, verset 14. Si dans Osée nous avons cette promesse, c'est parce que Dieu voulait le dire aux 10 tribus du Nord. Il voulait dire aux 10 tribus du Nord, regardez au-dessus de l'horizon, il y a mieux que ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vos responsables religieux vous disent. Il y a mieux, c'est moi qui vous parle. Moi, je suis la vie. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Ainsi donc, Hébreux, chapitre 2, verset 14. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc les enfants, les enfants de Dieu, au sang et à la chair, c'est-à-dire réalité humaine, mais corrompue par le péché, il y a également participé lui-même, mais sans péché, afin que par la mort, la mort de la croix, il est anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus en servitude. Vous voyez, il nous délivre de la mort, et aussi, vous voyez, ça nous doit beaucoup, on peur de la mort, pour le rendez-vous, la mort, Car assurément, ce n'est pas à des anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ceux qui ont confessé leurs péchés, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous échappons à la puissance de Satan. Et à la puissance du péché et de sa mort, de sa séparation éternelle avec Dieu. Donc, ce qui a été dit dans Hébreux, là, et dans Corinthiens, était déjà annoncé au peuple d'Israël. Il y a déjà des textes comme ça aussi dans Job, par exemple. L'Ancien Testament n'a peut-être pas été aussi clair, explicite, mais il annonçait déjà une totale libération, une totale gloire pour les hommes. Vous voyez, le prophète est venu amener un plateau en or, avec un trésor en or dessus, pour ce peuple des 10 tribus. Et pas seulement des jugements, des condamnations. Pas seulement la peur, mais aussi la foi. Et celui qui choisit, il choisit la foi ou la peur. S'il a la peur, c'est qu'il n'a pas encore réglé tout. Vous savez bien ce que Jean dit dans son premier épître, que la foi bannit la crainte.
L'amour parfait
bannit la crainte. Et que Paul a dit à Timothée, allons ton esprit de crainte et de timidité, ce n'est pas ça que je t'ai donné quand j'ai prié pour toi. On va prier pour qu'il parte. Les amis, perdez votre esprit de timidité et de crainte. Perdez toute complicité avec le péché. Trouvez en Jésus-Christ la liberté et toutes les promesses que Dieu a données. Amen.